Bonjour à tous, bienvenue sur Trade Union. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, c'est la première fois sur Trade Union avec Nidoa. Je prononce bien.
Très bien.
Je me demandais si je le prononçais bien parce que j'ai l'orthographe en tête et tout. Je me demandais si je le prononçais bien. Et là, du coup, en fait, c'est parti pour un échange. Donc vous allez découvrir la thématique au fur et à mesure. Mais croyez-moi, j'en suis sûre, j'en suis persuadée, ça vous sera très utile sur Trade Union. Et j'espère. Donc là, en fait, j'y vais franco. J'espère, en fait, qu'on aura l'occasion de se voir encore, de faire d'autres échanges, parce qu'en off, on a eu des échanges passionnants et je sais qu'il y aurait beaucoup à dire encore et beaucoup de choses, en fait, qui seront utiles à vous qui nous regardez aujourd'hui. Donc là, c'est parti. Je vais te demander de te présenter, ce que tu fais, enfin, ton activité.
Très bien. Bah, écoute, merci de m'inviter, Luisa, sur Trade Union, donc, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, avant tout, merci donc, pour cette invitation. Et je suis ravi de pouvoir parler à ta communauté, pour ceux qui ne me connaissent pas, et c'est 99% d'entre vous. Alors, je suis Nidoa Daoud, j'ai un podcast depuis plus de 2 ans et demi, des finances personnelles. Ce podcast existe sur toutes les plateformes de streaming. Il y a même une chaîne YouTube là-dessus. Et depuis 2 ans et demi, avant même la crise, je parle argent, mais j'ai surtout parlé argent pour des personnes fauchées. D'ailleurs, le nom du podcast à l'origine, c'était « Parlons argent entre fauchés ». Il y avait un petit clin d'œil à la fois humoristique et aussi sarcastique, en fait. Donc, je parler, et puis l'idée c'était de parler à une communauté de gens que j'estimais fauchés, notamment moi je m'inclus en fait dedans.
Alors déjà, quelle est ta définition de fauché? Il y a ça aussi.
comme j'aimais bien le dire, je disais des fois fauché ou pas fauché. Fauché, il n'y a pas de curseur, pas de chiffre en disant à 10 euros dans mon compte, je suis fauché, à 1000 ou à 2000 ou à 5 millions, je ne suis pas fauché. Fauché, c'est un ressenti, c'est une émotion qui vient de l'intérieur en se disant « mince, je suis fauché ». Parfois, on peut se sentir fauché, même si on a 1 million dans son compte en banque. Ça dépend de ce que l'on veut en faire. Mais parfois, on peut ne pas se sentir fauché, même si on est à moins 500, on se dit « bon, ça va ».
Il y en a des.
Il y a des rentiers qui vont arriver. Du coup, c'est un sentiment qui nous habite, qui nous fait dire par une petite voix « je suis fauché » ou « je ne suis pas fauché ». C'est pas le même ressenti pour toi, Luisa, ou pour moi?
Complètement. Et je me rappelle, la fois où on s'est croisés pour la première fois, donc là je vais le dire, en fait c'était un événement, c'était il n'y a pas si longtemps en vrai.
Oui, tout à fait.
Pourtant ça a tellement matché qu'on a beaucoup échangé depuis. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quelques semaines, un événement organisé par Mistro Entreprises. Et du coup, en fait, il y avait un défilé de conférences sur des thématiques bien précises qui tournaient autour des finances. Et tu es intervenu, en fait, tu as pris la parole, en fait, dans ce sens-là. Et j'avais beaucoup apprécié ce côté sur mesure, en fait, dans ce que tu proposais, dans ce que tu disais. Parce qu'en gros, après, tu me diras, en fait, ta vision des choses et tout. Mais quand tu prenais la parole, j'ai vraiment ressenti que, voilà, chaque parcours, en fait, ses finances, chaque personne, sa personnalité, et du coup qu'il fallait vraiment adapter. Et que quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les livres, en fait, c'est tout le temps, c'est très orienté vers le même type de profil, et les conseils qu'on donne parfois ne sont pas applicables à tous.
À tous, oui.
Et ça, en fait, en ce sens, j'avais beaucoup apprécié ce que tu fais.
Ah ben, je te remercie, d'être bienveillante. Alors, la thématique à laquelle je suis intervenue, c'était entreprendre avec une famille à nourrir. Donc ça, c'était la thématique, même si on ne va pas la développer là. Mais j'étais parti d'un point de vue qui est le suivant. C'est que déjà, moi, j'interviens sur la finance personnelle ou les finances personnelles. Et il y a finance, il y a personnel. Donc personnel, ça vient un petit peu, ça relève un petit peu de l'individuel. Et chacun a sa propre histoire. Chacun a ses propres projets, ses propres visions et qu'il faille les adapter à chacun. Donc là, on est un petit peu sur du sur-mesure. On est un petit peu dans de la haute couture. On est avec une aiguille, avec un fil. Donc, on va coudre au bon endroit. Et moi, j'aime bien cette approche-là parce que les manuels de formation, les intervenants, les formateurs, les coachs, les influenceurs. Pour s'adresser à une communauté, ils s'adressent à une population, à une cible, à une niche. Mais moi, j'ai trouvé que cette approche-là, elle est dangereuse parce que ce qui s'adapte à moi ne s'adapte pas à toi. D'où l'importance de partir de la personne pour lui appliquer des conseils qui sont adaptés à sa propre situation. On peut même prendre le cas des jumelles, donc jumelles même âge, qui ont fait peut-être la même formation, qui travaillent au même endroit. On n'aura pas la même approche, on n'aura pas les mêmes conseils. Donc, et moi, je maintiens cette approche-là en disant que chacun devrait avoir son propre diagnostic, ses propres solutions.
Très bien. Et au niveau des compétences, en fait, quel parcours t'a mené à te positionner de cette manière-là, à te dire maintenant, en fait, je suis en mesure de donner des conseils par rapport aux finances de chacun. Est-ce que c'est par rapport plutôt à ton vécu personnel, plutôt à ton vécu professionnel, ou peut-être la conjonction des deux?
Oui, alors c'est peut-être une confluence de beaucoup d'univers, mais pour revenir un petit peu à l'idée de départ, moi je suis né dans un commerce. Ma mère, elle est ce qu'on appelle aujourd'hui slasheuse, commerçante. Elle a fait un peu de couture, elle a été peut-être l'une des premières make-up artistes ou maquilleuses aux Comores. Elle tient aussi un café, même jusqu'à maintenant, elle tient aussi un café. Je suis né dans cet univers où je côtoyais ce qu'on appelle des tissus chiromanie, jusqu'à la boîte de sardines, jusqu'au café où les gens venaient le prendre le matin. Je suis né dedans. Et en étant né dedans, on parle commerce, on parle business, mais surtout, il y avait une notion de je dépense, je gagne, je perds. Donc, je suis né dedans. Je pense que j'ai commencé à l'âge de 3, enfin à l'âge de 5 ans ou 6 ans, à être déjà dans le commerce, à être déjà commerçant. Et donc, je suis baigné dans cet univers-là. Après, j'ai fait des études comme tout le monde. J'ai fait un bac scientifique. J'ai fait des études dans le domaine du commerce, du marketing. Et puis, par la suite, je me suis intéressé en fait à ces thématiques parce qu'il y a une chose qui m'anime, en fait, c'est de pouvoir aider chacun. C'est plus fort que moi. Donc, aller trouver une personne pour lui donner un coup de main. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous parlaient beaucoup d'argent, en fait. Dans l'univers, chez les Comoriens, on parle beaucoup d'argent. On est juste à parler ce qu'on appelle de la façon de dépenser, de l'utiliser. On est très peu branché sur l'avant, comment on peut le préserver, comment on peut faire ça. Par la suite, donc j'ai eu des formations, en fait, dans le domaine de la finance. J'ai commencé par passer ce qu'on appelle une certification par l'autorité des marchés financiers. Donc c'est une formation intense qui me sensibilise et qui m'autorise en fait avant tout à conseiller quelqu'un. Donc c'est une certification nationale, mais ça vient des lois européennes avant tout, donc qui permet de dire à une personne comment tu peux placer ton argent. Et puis ça fait plus de 5 ans que je suis entièrement dédié aux finances. Donc je travaille sur toutes les thématiques de la finance. Ça va de l'épargne, l'immobilier, les assurances, le quotidien, les moyens de paiement. Et j'ai voulu prolonger cela. Et le fait aussi d'avoir eu aussi un parcours qu'on appelle international, parce que moi je suis né aux Comores, et je suis venu en France. Je m'étais installé en Irlande, je m'étais installé en Espagne. Après, j'étais reparti m'installer à Mayotte. Tous ces bouts de parcours, j'ai eu à me placer dans différentes positions. Et maintenant, avec ma propre vie, parce que la base, comme je le disais, c'est les Comores. Je suis né au moment où tout partait en vrille aux Comores.
C'est-à-dire quand on puisse le situer.
Moi, je n'ai pas connu le président Abdallah, mais je suis né pendant sa période et tout partait en sucette en fait aux Comores. Et du coup, le premier mot que j'ai entendu, que j'ai retenu quand j'étais enfant, la crise. La crise. Et du coup, je suis né dans un environnement de crise et toute ma vie, ça a été de survivre en fait, donc de dépasser et de trouver des moyens dans cette crise. Donc aujourd'hui, je souris quand j'entends l'inflation, quand j'entends la crise, les gens ils découvrent la crise. Moi, je suis né dedans et J'ai commencé à m'émanciper en fait vraiment à l'âge de 14 ans où je me suis pris en fait en main. J'ai commencé en fait, tout de suite à prendre soin de mes finances en me disant voici ce que je rentre, voici ce que je reçois avec ma bourse. J'ai commencé avec ma bourse, une bourse de lycée, et c'est là où j'ai commencé en fait, cette histoire.
Ok, alors il y a tellement de questions qui viennent en même temps, il va falloir que je les pose de façon cohérente. alors déjà, par rapport à la façon de dépenser, parce que c'est vrai que on est très axé, en tout cas quand tu le dis, moi je le ressens, sur la façon de dépenser, comment la personne a dépensé, que c'est dans des logiques d'impressionner ou c'est plus par habitude et par mimétisme en fait qu'on évoque l'argent comme ça. Mais du coup, on manquerait un petit peu d'éducation financière. Mais dans les schémas, en fait, qu'est-ce que tu retrouves le plus souvent en termes de défauts en fait, dans notre approche des finances au sein de la communauté?
Moi, j'ai une approche heureuse des choses. Je déteste quand on fait culpabiliser les gens, quand on leur dit « vous faites pas bien, tu dépenses pas comme ça ». Je déteste ça. Parce que j'ai un auteur qui n'est pas dans la finance, que j'aime beaucoup, c'était Pierre Rabhi. Et Pierre Rabhi, lui, il avait une expression qu'on appelle la sobriété heureuse. J'ai constaté que tout le monde est en train de dire « tu dépenses pas bien, tu ne sais pas gérer ». En fait, ça n'aide personne. Parce que maîtriser ses finances personnelles, c'est une vraie compétence. Et cette compétence-là, ça ne s'enseigne pas à l'école. On peut être titulaire d'un BTS de comptabilité, d'un BTS de, je ne sais pas, de finance ou d'analyse financière. On peut être une vraie quiche pour faire son budget, pour faire ses dépenses. Donc, moi, par exemple, je te disais que je suis né dans un commerce et à 5 ans, j'étais déjà là en train de vendre. Là, aujourd'hui, j'en ai 40, donc j'ai peut-être passé 35 ans de formation. Donc, du coup, c'est une compétence, c'est une connaissance, c'est une expérience à avoir, mais il faut avoir les moyens intellectuels, les outils pour faire cela. Eh ben, de la même manière qu'on est maçon, qu'on est peintre, qu'on est médecin, qu'on est mécanicien, il faut aller acquérir cette compétence. Et moi, je suis parti du postulat que notre société, ou notre communauté, ou notre environnement ne nous transmet pas, ne nous forme pas à ça. Et mon pari à moi, c'est avant tout de dire aux gens, c'est une compétence, c'est de les sensibiliser et de les amener à l'acquérir. Et attention, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce qu'on a cette compétence-là que ciao, ciao, au revoir. Rien que avant la crise du Covid, la manière de gérer les choses n'est pas la manière de le faire maintenant. Donc, ça nécessite une permanence,
adaptation,
une permanente adaptation. Donc, c'est important de parler de ces gens, de parler des gens en disant tu es médecin, tu es prof, tu es au chômage, tu es en CDI, tu es en freelance. Il faut que tu apprennes cette compétence-là et elle est très indispensable. Alors, il y a trois manières d'apprendre cette compétence. Soit on est autodidacte, donc et on se jette dans des manuels. Donc, par exemple, rien que pour faire le chemin, je me suis jeté sur le manuel de Lise Bourdeau, L'argent et l'abondance. Donc, je l'ai lu pendant mon trajet. Aujourd'hui, on a la possibilité de regarder des tutos, des YouTube, de tout ce que l'on veut. Mais aussi, on peut trouver... s'amuse, en fait, on peut trouver un mentor, un coach, quelqu'un qui te transmet cette compétence-là.
Ok. Okay. Après, par rapport à ce que tu dis, donc, au sein de la communauté, moi j'ai du mal à identifier les schémas, parce que voilà, après c'est pas mon champ d'expertise, mais en dehors de la communauté, ce que j'ai remarqué, c'est que quand bien même, les gens n'ont pas forcément, ils n'ont pas forcément ces capacités-là, mais ils arrivent à reconnaître quand ils ne les ont pas. Et que du coup, ils ont plus d'aisance à demander de l'aide ou à faire appel à quelqu'un pour être mentoré en fait dans ces domaines-là. Et j'ai déjà rencontré des gens, par exemple l'immobilier, qui me disent, et pourtant ils sont très très bien financièrement, très à l'aise et tout, ils disent l'immobilier, je connais rien et tout. Donc là, en fait, il faut que je trouve quelqu'un qui s'y connaisse et moi je vais le poser en fait pendant 2-3 heures et tout ce qu'il me dit, je vais le noter. Et ça, ce truc-là, en fait, je l'ai jamais entendu au sein de la communauté, comment dire, de dire ok, là je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Je vais faire appel à quelqu'un, et voilà, je trouve ça dommage. Et Bon, après, comme tu as dit, le but, c'est vraiment pas de culpabiliser et tout, mais en tout cas, c'est cool qu'on ait une solution aujourd'hui.
Oui, ça, c'est très bien. Alors, je vais un peu revenir sur l'approche un peu sociologique, en fait, pour les Comores. Bon, déjà, les Comores, quand on dit les Comores, il y a une pluralité. Et on sait très bien que c'est le pays des villages. Il y a 1 million de villages aux Comores. Donc, chaque quartier se constitue un village. Et bien, même quand on vient des Comores, peu importe son village, son île, on n'a pas la même approche. Et ce qui est important de comprendre, c'est que gérer son argent, avant même de gérer son argent, on a aussi une histoire personnelle. On a aussi un environnement social, économique et culturel. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai des tantes ou des oncles qui n'ont pas eu de commerce. Donc forcément, leurs enfants ne sont pas comme moi.
Tu ressens la différence.
On ressent la différence. Donc moi, j'ai été baigné dedans, dans une école des petites. Donc du coup, à la maison, on parlait argent aussi, comme on est en train d'évoquer le sujet. Ce n'était pas un tabou. Il n'y avait pas un complexe. Je n'ai pas assez d'argent ou j'ai trop d'argent. Non. On parlait argent, on cherchait à en gagner. Et ce n'était pas du tout un souci. Et moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'être dans une famille où les gens s'en sortaient plus ou moins. Mais de l'autre côté, tu as des familles où ce sujet-là, ou dans presque 90% du pays, c'est un sujet tabou, les gens, ils ont des complexes. Et ce qui est important, c'est qu'il y a... Et mot très important comorien qu'on appelle Cheo. Cheo, c'est l'honneur, c'est le paraître, est une notion très importante. Les gens n'aiment pas perdre la face. Donc les gens viendront pas parler argent.
Mais quand bien même c'est ta famille.
S'ils ne sont pas riches, non. C'est un marqueur social très discriminant et très important. Donc l'argent donne tellement de choses, donne la bonne éducation, donne... la bien-pensance donne tellement de choses que celui qui n'en a pas se retrouve totalement diminué ou écarté de beaucoup de choses. Donc ça, c'est aussi notre approche. Donc du coup, il est plus facile pour un Comorien de dire « j'ai faim ». Mais ça lui est pas facile d'avouer qu'il n'a pas un sou. C'est culturel. Donc, et parce qu'il pense que s'il a des sous, il a tout. Or, c'est faux. Du coup, on est dans ce chemin-là en se disant, j'ai pas de sous, j'ai pas de culture, j'ai pas de connaissances, j'ai pas de diplôme. Donc, en fait, ça va au-delà. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal, nous, à se remettre en question en disant, je n'ai pas cette information, je n'ai pas cette connaissance, je vais demander à l'acquérir. Là, par exemple, notre je dirais, collègue ou confrère Edine, mais c'est une entreprise, il vient, il dit à tout le monde, par exemple, qu'il est possible de te lancer dans l'entrepreneuriat. Jirou Mebom Komor, c'est quelque chose de fracassant. Et on voit aujourd'hui, par exemple, avec des associations ou des collectifs comme Blink, où on voit émerger, en fait, des entrepreneurs, on voit émerger aujourd'hui beaucoup d'influenceurs, beaucoup de coachs qui sont là, qui sont dans un style apprenant. Ils viennent dire aux gens, hello, moi j'ai acquis des connaissances, j'aimerais les partager. En fait, on est rentré dans notre génération, dans une nouvelle ère de la transmission en masse de connaissances. Mais nous-mêmes, on vient en disant, attention, je ne suis pas le spécialiste, hein. Je ne suis pas le mieux sur ce domaine-là. Mais je vais quand même partager. Donc, en fait, on est en train de changer un peu de paradigme.
Oui, je vois complètement. Et du coup, alors l'autre question que j'avais, avant d'oublier, c'était par rapport à la crise que tu as évoquée, oui. Donc celle du Covid, donc, qu'on a tous vécu, pour le coup. Et dans la façon de gérer, alors là, ce n'est pas forcément comorienocentré comme question, mais après, si tu as des précisions par rapport à la communauté, je prends. Mais dans la façon de gérer en général, est-ce que tu as trouvé, en fait, qu'on a mal géré dans l'ensemble. Est-ce qu'on a eu des mauvais réflexes financiers? Est-ce qu'on a eu des mauvais réflexes au niveau du comportement
Alors, la crise, en fait, elle nous est tombée dessus comme ça. Donc, on nous a annoncé une grande pandémie mondiale et bim, on nous a confinés. Et quand on nous a confinés, c'est comme si on nous a mis nus. Et on voyait le boyau, on voyait tout à l'intérieur. C'est comme si on avait fait une échographie, en fait, de notre organisme. Et du coup, ça nous a montré un tableau, une photographie de ce qu'on était avant, de ce qu'on a fait avant. Et c'est là que nos failles, en fait, et nos forces se sont révélées, en fait, face caméra. C'est comme ça que ça s'est passé. Et les gens, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, en fait. Ils ont bien géré, en fait, cette crise, même ceux qui étaient partis handicapés ou pas assez forts. Mais avec, maintenant, on en parle moins, les gens, ils sont tout de suite retombés dans leur travers. C'est comme s'il n'y avait pas de crise, en fait. Donc, la nature ou les bonnes vieilles habitudes ont repris le dessus. Mais globalement, ça, c'est bien géré. Mais c'est l'après que les gens, ils ont mal géré parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas su tirer les leçons de cette crise.
Après, ça se joue à toutes les échelles, hein. Enfin, vraiment à toutes les échelles de la société. Mais moi, j'avais constaté deux tendances, vraiment, pendant la crise. J'ai vu, en fait, en même temps, un sursaut de créativité. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, soit ils étaient créatifs de base, et qu'ils le savaient, donc du coup, ils ont catalysé le truc pendant le Covid, ou soit ils ne soupçonnaient pas de la créativité en eux, et ça a été le moment de créer. Donc, il y a eu des créateurs, et au contraire, en fait, il y a eu des défaitistes. Enfin, après, c'est que de l'observation, hein, c'est très empirique. Et j'ai vu, en fait, qu'il y avait des défaitistes en disant, bon, bah, j'ai des projets à cause du Covid. Après, il y en a, voilà, on ne peut pas faire autrement. Par exemple, on a un resto, il est obligé de fermer du jour au lendemain. Enfin, voilà, c'est pas notre faute. Mais d'autres, en fait, il y avait des projets qu'ils auraient pu réaliser, mais qui disaient, non, là, en fait, c'est peut-être un signe pour, en mode, voilà, j'arrête et je mets de côté. J'en ai vu plein comme ça et ça m'a fait tellement de peine. Et là, on est là 2 ans plus tard. Et en fait, je commence à voir la différence entre ceux qui ont créé pendant cette période-là, qui se sont dit « bon, bah, je profite justement de cette bulle pour me développer, me concentrer sur moi et mes projets », et ceux, en fait, qui ont un petit peu laissé de côté et qui regrettent un petit peu aujourd'hui. Oui. Donc, je voulais savoir ton point de vue.
Alors, la crise, elle a été révélatrice, on va dire, elle a révélé le bien, elle a révélé aussi le mal, parce qu'on a vu des comportements avides, on a vu des gens qui se sont reconnectés avec leur famille, avec des valeurs positives, saines. Donc en fait, la crise a été un gros projecteur sur l'humanité. Donc l'humanité s'est révélée comme ça. Ceux qui polluent, ceux qui ne polluent pas, la nature, le béton, l'industrie. Et elle a transformé chacun d'entre nous. Et dans un sens contraire de ce qu'on était avant, comme ça a renforcé, en fait, des travers chez chacun. Mais c'est vrai que les gens, tout le monde en est ressorti différent de cette crise. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que cette crise a profité. Ceux qui étaient déjà meilleurs se sont un petit peu renforcés. On continue d'être encore meilleurs, et ceux qui n'étaient pas meilleurs, qui étaient moyens ou limite médiocres, ils ont continué dans ce sens-là parce qu'il n'y avait pas les bases, en fait. Il n'y avait pas les piliers, les fondations qui pourraient les transformer. Après, il y en a qui ont réussi à se transformer, mais en fait, ça a un peu polarisé, en fait, le monde. Là, pour revenir sur les finances, les gens, quand ils sont restés chez eux, confinés, qu'ils ne travaillaient pas, eh ben, il y a des gens qui avaient de l'argent de côté, qui avaient anticipé des coups durs, qui avaient anticipé des problèmes d'avenir. Il y a ceux qui ne l'ont pas fait et qui se sont retrouvés avec une grosse angoisse, en fait, une grosse inquiétude. Et il y a des gens qui ont profité d'opportunités pour se lancer, pour investir. Il y en a, bon, ils ont fait du surplace, en fait, en se rongeant, en fait, les ongles. Donc, en fait, c'est ça ce qu'il y a eu. Mais tout de suite après cette crise, là on nous parle d'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est tout simplement une baguette qui était à 0,80 passe à 1,10 ou 1,20. Donc ça fait flamber nos dépenses. Et les gens qui étaient déjà fragiles, qui ne géraient pas bien, eh ben, ils se retrouvent encore pas bien parce qu'ils n'avaient pas anticipé qu'on allait tellement augmenter, en fait, les choses. Donc c'est pour ça que moi je milite depuis le début. Et j'invite, en fait, à chacun qui tombe sur mes contenus, en disant, ce n'est pas grave. Déjà, il n'est pas trop tard pour se lancer. Il n'est pas trop tard pour se prendre en main. Mais c'est t'as un vrai acquis, c'est quelque chose, en fait, c'est un instrument qu'on doit apprendre à maîtriser.
Je vois, mais du coup je vais me faire la voix de la deuxième catégorie. Parce que très souvent quand on entend ce genre d'argument, on a envie de répondre, on aurait aimé en fait pouvoir anticiper les coups durs, mais voilà, toutes les situations ne le permettent pas. Est-ce que par exemple, une personne qui gagne, je sais pas, le SMIC peut mettre de côté, sachant que bah, le coût de la vie est ce qu'il est?
Alors, en fait, il y a une croyance qui tend à dire « ça serait mieux ma vie si je gagnais 5 000 euros ». Ben, c'est oui et non. Donc là, on est vraiment dans une conversation de bar, hein, de comptoir. Ben, moi, par expérience, je connais des familles où les deux parents aux Comores étaient instituteurs. Ils ont réussi, ou avec un seul parent, ils ont réussi à construire quelque chose. Et puis, je connais des familles où les gens, messieurs et madame étaient cadres et ils ont complètement foiré, en fait, leurs finances, en fait, les projets. Le plus important, c'est de prendre conscience que, par exemple, j'ai le SMIC. Qu'est-ce que je peux faire avec un SMIC? Comment je dois gérer en tant que SMICard? Quels sont les projets? Quelles sont les choses auxquelles je me projette?
C'est avec ça
qu'on peut construire en fait le futur. Les finances, c'est pas de l'instantanéité, c'est pas de l'émotion vive, c'est pas comme une moutarde qui monte. Il faut faire attention à ça. L'émotion est, en plus, une émotion spontanée et rapide comme ça, et c'est très mauvais. Les finances, c'est une matière un peu froide qui se travaille un petit peu avec le temps. Et c'est cette notion de temps qu'il faut y installer. Et un SMICard, il a davantage besoin de ce fil, de cette haute couture, de cette précision, de cette broderie, de cette petite dentelle, plus que quelqu'un qui gagne beaucoup. Parce que la marge de manœuvre d'un SMICard est très réduite. Donc les bases, c'est très important. Pour prendre un exemple, moi j'ai un public que j'aime beaucoup, c'est les étudiants. J'aime beaucoup les étudiants parce que je pense que c'est le début de quelque chose. Ils sont ouverts, ils sont formés, ils sont diplômés ou ils vont l'être. Je pense qu'avant de fêter son diplôme ou avant de se dire oui, je vais aller dans un bar fêter le DUT ou BTS ou le Master 2, on devrait sonner, aller voir un coach financier et lui dire, bon voilà, j'ai fini mes études, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant même de fêter son premier CDI ou ses premiers revenus, parce que la base en fait c'est ça. Et on ne construit pas sa vie de la même façon qu'on soit salarié, fonctionnaire, en freelance, à son compte, de la même manière. Donc et cette notion-là, je la fais redescendre en fait dans les familles et je dis aux gens, par exemple, poussez-vous, faites-vous-même en fait un bilan financier. Moi, par exemple, ça fait plus d'un an et demi que j'ai proposé ce qu'on appelle un rendez-vous flash où on a la possibilité d'offrir un cadeau à un membre de sa famille pour faire un bilan donc sur ses finances. C'est de l'ordre d'une trentaine d'euros quand je l'ai lancé. Ah ouais. Donc, et il y a des gens qui m'ont dit, ben, bingo, j'en ai peut-être pas besoin de moi, mais je vais l'offrir à mon beau-frère, ma belle-sœur, ma cousine, même à ma mère. Parce que à tout âge, même à 90 ans, on a besoin de parfaire ses finances.
Et là, ça me fait tilt. Donc, du coup, un étudiant, il peut venir taper à ta porte. Parce que quand on est étudiant, que je sais qu'il y en a pas mal parmi ceux qui nous regardent, on n'a pas forcément le réflexe, on se dit qu'on va penser finance une fois qu'on est déjà entré dans la vie active. Mais là, ça veut dire que je peux être dans mes études. Je me dis, bon, je vais bientôt les finir, ou peut-être pas. Hein, et me dire, ok, j'ai peut-être besoin de conseils, commencer à façonner en fait mon mindset financier. On peut venir taper à ta porte.
Alors, je vais te faire une petite révélation. Quand j'étais en première année, j'étais embauché dans un entrepôt froid, où il fallait mettre des combinaisons, même des scaphandres, pour aller chercher des produits très frais. Il faisait -5. Ben, j'avais tellement bien gagné ma vie, à l'époque, j'avais gagné 1600 euros. Parce que j'étais en intérim, en fait, avec un job étudiant. Et quand j'avais gagné les 1600 euros, j'étais payé quasiment 2 mois, en fait, d'un coup. Et je m'étais trouvé riche à l'époque. Allez, génial. Et bien, le premier réflexe que j'ai fait, quand j'avais cette somme, j'ai tellement eu peur de le dépenser.
Mais non.
Je me suis dit, non, mais je ne peux pas dépenser cette somme. Il faut que je fasse quelque chose. Et avant tout, j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller financier. Je lui ai dit, bon, voilà, j'ai gagné, je ne sais pas, 3000 et quelques. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'étais bien tombé. Et il m'a accompagné. Et alors, il y a des solutions que ma conseillère m'avait préconisé en fait à l'époque et que 20 ans après c'était toujours d'actualité parce que elle m'a fait préparer en fait à mes projets et moi avec déjà mon background je me suis dit ah quand je vais gagner 1 euro comment je peux le placer, comment je peux le faire et j'étais très content de l'avoir vu à cet instant là. Il faut s'imaginer que l'argent c'est une ressource qui est facilement en fait épuisable et que c'est comme si on manipule une boule de feu. On ne peut pas trop la tenir, il faut essayer de trouver des astuces en fait. Et il faut tout de suite se dire, quand j'ai 1 euro, qu'est-ce que j'en fais? Demain, c'est 2 euros. Voilà. Parce que si on ne sait pas comment faire avec 1 euro, alors on ne saura jamais faire si demain matin on te donne 1 million. C'est clair. Tu auras beau avoir 1 million d'un coup, mais tu vas les cramer comme jamais. Il est vrai qu'il y a 2 jours, je suis tombé sur un reportage sur M6. Des gens qui ont gagné, un Américain qui a gagné 5 millions à 18 ans. Ah ben là, il est hyper pauvre. Quoi.
Non, je m'attendais à une fin, genre, il a fructifié le
truc. Parce que, et justement, c'est ça. La différence, en fait, c'est ça.
5 millions, il a réussi à les flamber.
Et il a réussi à les flamber. Et il est devenu, enfin, il s'est retrouvé fauché 5 ans après. 5 ans après avoir gagné 5 millions.
C'est comme toutes les stats par rapport au loto, qui en a pas mal en fait, une grande partie d'entre eux, qui se retrouvent à l'état de départ plusieurs années après avoir remporté la mise, parce qu'ils n'ont pas justement la mentalité financière qu'il faut.
Donc ce que je disais, c'est, moi dès que je rencontre une personne, je ne vais même pas lui dire il faut faire des placements, il faut faire ça. Moi ce qui m'intéresse en fait, c'est la personne. Ses origines, ses projets, ses envies. Je passe énormément de temps pour découvrir d'abord la personne, son milieu, d'où il vient, parce qu'on n'a pas le même rapport selon les familles, selon son histoire, si on est réfugié politique, si on était enfant gâté. Si... Donc, en fait, c'est là où... C'est, la base, en fait, c'est ça. C'est la connaissance de la personne pour lui baliser un parcours.
Okay. Non, vraiment hyper intéressant. Là, je ne sais pas si ça va passer ou si ça va être coupé au montage. Mais là, ça me fait penser même à ma propre histoire par rapport à l'argent. Parce que je vois, bon, dans la famille, on a un rapport plutôt sain à l'argent, mais je sais qu'il s'est construit de façon très complexe. Parce qu'il y a le fait que, bon, mes parents, en fait, ma mère est née en France, mais elle a grandi aux Comores. Donc voilà, elle a passé une très très grande partie de sa vie aux Comores. Elle était bien, au Comores, elle avait un poste plutôt bien. Elle est venue en France, elle a subi un déclassement social. Et du coup, parce que souvent, quand on a l'image quand on a l'image des parents comoriens d'ancienne génération, on se dit, voilà, ils sont forcément nés là-bas. Peut-être qu'ils étaient très pauvres là-bas, ils sont arrivés ici pour une vie meilleure. Enfin, tous les parcours ne s'inscrivent pas dans cette lignée. Mais toujours est-il qu'en arrivant en France, elle a subi un déclassement social. Et du coup, mais dans sa transmission, en fait, j'ai eu les deux. Genre, en même temps, j'étais l'enfant de quelqu'un qui a eu... qui n'était pas au sommet socialement en France, mais en même temps en fait j'ai reçu la transmission de quelqu'un qui était bien avant et du coup en fait il y a vraiment les deux qui se juxtaposent et financièrement en fait ça a été un petit peu une aliénation pendant plusieurs années. Je jongle entre deux philosophies complètement différentes et tout et voilà, enfin, je sais pas pourquoi je raconte ça mais
alors moi il y a une question qui me vient à l'esprit, quelle est ta propre philosophie, parce que tu as des héritages familiaux ou culturels. Mais il est temps, Luisa, pour toi de dessiner ton propre cheminement. C'est très important.
Ouais. Ben là, je le travaille en vrai, j'avais peur de l'argent. Et là, c'est un truc, je crois que c'est la première fois que je le raconte à haute voix et tout. Moi, je l'avais raconté à quelqu'un il y a plusieurs années. L'argent me fait peur. Et en fait, comme c'est pas quelque chose de normal, parce qu'on est censé être fasciné par l'argent, attiré par l'argent, j'osais pas le raconter. Et surtout que depuis que je suis diplômée et tout ça, j'ai toujours eu la chance d'avoir des postes qui rémunèrent très très bien. Mais avant mon premier contrat, j'avais peur, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de cet argent, qu'est-ce que je vais en faire. Et réflexe en fait, qui ressemble pas mal à ce que tu as décrit tout à l'heure, en fait mon premier truc ça a été d'essayer d'avoir l'avis de personnes extérieures qui selon moi avaient réussi ou étaient établies ou avaient des connaissances dans le domaine. Donc je l'ai ramené à mon directeur de prépa de l'époque et tout. Je lui ai dit, voilà le contrat que j'ai trouvé, est-ce qu'il est bon selon toi? Il m'a dit, oh, c'est plutôt pas mal, mais voilà. J'en ai parlé à mon conseiller banquier qui m'a vu en fait dans toutes mes galères étudiantes et tout. D'après vous, est-ce que... Puis là, il a lu. Enfin, vraiment, chacun a essayé de donner son avis et j'essaie de consulter plusieurs personnes comme ça. Mais en fait, j'avais l'espoir secret qu'ils me disent quoi faire de cet argent. Genre, en gros, je sais pas, est-ce que je le mérite, est-ce que je le mérite pas? Si je le mérite, qu'est-ce que j'en fais? Et j'ai toujours eu peur de l'argent. Et là, c'est seulement depuis l'année dernière, je crois, un truc comme ça, que j'ai dédramatisé le truc, mais voilà.
Pur hasard, je lisais Lise Bourbeau, le titre c'est « L'argent et l'abondance ». Et l'une des notions que j'ai retenues dans ma lecture, et qui m'a beaucoup plu, c'est que l'argent c'est une énergie en fait. Et je m'en tiens à sa définition en fait. L'argent c'est une énergie. Et tu as raison d'avoir peur. Parce qu'en fait, le fait de clamer, de dire « j'ai peur de l'argent, j'ai peur de ça », c'est déjà le début d'une prise de conscience. Et c'est très important. Donc on va pouvoir travailler en fait cet aspect-là. Donc l'argent, c'est une énergie et on a raison d'avoir peur, de le craindre, on a raison de le désirer. En fait, il n'y a pas de position « j'ai tort, j'ai raison, c'est bien, c'est mal ». Donc c'est une énergie et comme toute énergie, il faut l'apprivoiser, il faut en faire quelque chose. C'est comme l'énergie atomique. On en fait une bombe, comme on peut en faire un central d'énergie pour alimenter le chauffage des maisons. Et c'est, encore une fois, en acquérant une éducation et une culture financière qu'on va apprivoiser en fait, sa peur. C'est comme quelqu'un qui me dit « j'ai peur de l'avion ». Allez, hop, il va faire une formation avec un simulateur aérien. Il va comprendre les mécanismes de l'aéronautique de l'avion et ça va peut-être l'aider à appréhender en fait l'avion. Donc, on ne devrait pas avoir peur. On devrait plutôt s'exprimer et laisser les gens s'exprimer en fait sur l'argent. Ça ne devrait pas être un tabou. On devrait chacun venir dire, oh là, je l'assume, je suis Picsou, je suis un gros radin, je suis avare comme tout. On ne devrait pas culpabiliser les gens. Parce que peut-être que les gens, ils nous envoient un message, en fait. Il y a des gens, par exemple, ils ont peur d'en manquer. Parce que ça remonte il y a très longtemps, à l'époque des sultans batailleurs. Mais il y a des gens, ils sont très à l'aise. Ils se disent, c'est pas grave, demain, je peux me retrouver à moins de 10 000, c'est pas un souci. Cool, zen. Donc, chacun doit pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Librement, sans culpabilité.
Mais c'est difficile parce que, alors, en tout cas, en France, mais après, j'ai l'impression qu'on retrouve le même schéma dans la culture comorienne. On est dans une culture de la moyenne. Mmh. Genre, il ne faut pas, en tout cas, j'ai l'impression, comme tu as dit tout à l'heure, il y a le paraître, donc il faut qu'on ait l'air à l'aise financièrement, mais en même temps, il ne faut pas qu'on ait l'air trop à l'aise non plus de peur de susciter l'envie. Donc on a peur d'avoir l'air de ne pas en avoir, mais on a peur d'avoir l'air de trop en avoir. Et c'est très, du coup, ça ne libère pas la parole, ce genre de truc. Mais comment on peut faire, en fait, ok, c'est ça le plan, il faudrait qu'il n'y ait pas de tabou et tout, mais comment on peut faire pour briser ce tabou maintenant?
Alors, pour briser le tabou, tout simplement, il y a un an, j'ai rencontré un éditeur qui s'appelle Bassem Ejri, et je lui ai fait une interview, en fait, sur mon podcast, et il est venu éditer un livre, un best-seller américain qui s'appelle les millionnaires en fait, comment vivent les millionnaires, c'est un best-seller. Donc c'est C'est un livre qui est magnifique, que j'ai eu l'opportunité de le lire. Et dans ce livre, on nous donne les secrets des millionnaires américains. Comment ils vivent ? Enfin, on est tous en train de fantasmer. On s'imagine qu'un millionnaire, il a un train de vie fastueux, il a des domestiques, il a des fouets, comme ça. Il prend
une clochette.
On est en train de s'imaginer cela. On est en train de fantasmer sur les millionnaires, l'argent, les riches. Mais on a des images déconnectées de la réalité. Et parfois, les gens même, ils savent pas même qu'eux-mêmes, ils sont millionnaires. Ils sont même en fait riches. Et il y a cette notion de riche, en fait. En France, on est considéré comme riche, entre guillemets, à partir du moment où on gagne 5 000 euros. Donc, parce que 98% de la population gagne moins de 2 000, de 3 000. Donc, en connaissant la vie des gens riches, fortunés, des différentes couches de la société, on décomplexe, en fait, par rapport à ce sujet-là. Donc, encore une fois, on vient dans cette culture-là, on vient dans cette notion d'apprendre ça pour dédramatiser, pour dédiaboliser, en fait, certaines situations. Donc, le paraître, c'est un artifice, en fait. La société, ça peut nous induire en erreur en se disant, peut-être que si je fais ça, je suis bien vu. Mais en même temps, on peut être mal vu aussi parce que pour certains, on peut paraître trop bling-bling, trop m'as-tu vu. Or, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent aimer la sobriété ou la discrétion. Donc, si on sait comment vivent les riches, comment vivent les pauvres, comment vivent les gens de la classe moyenne, c'est quoi leur projet, c'est quoi leur vision, c'est quoi les choses, c'est quoi leur valeur, encore une fois, après, on se dit, bon, moi, j'essaie de me situer comme ça. Donc, c'est ça ce qui va dédramatiser, en fait, un petit peu les choses. Par exemple, juste pour spoiler un petit peu, en fait, le bouquin, même si c'est important d'aller voir tout, parce que c'est pas juste un livre d'influenceur, c'est 20 années d'études scientifiques, en fait, avec des approches scientifiques très qualitatives, pour nous donner, en fait, des leçons. Là, par exemple, on s'imagine que quelqu'un à qui on dit que c'est un millionnaire, ou il fait partie des Forbes 50 ou 10 ou 20.
J'adore ce genre de classement.
Alors, on s'imagine que ces gens-là, ils ne touchent pas à terre, quoi. Ils ont une sorte d'élévation comme ça. Non, ces gens-là, ils ont aussi des limites. Ils ont imposé des limites dans leurs dépenses, des limites dans leurs investissements. Ils sont ultra conseillés, ultra entourés, parce que on peut se retrouver fortuné le lundi et le mardi aller pointer à demander, en fait, des aides sociales à l'armée du salut. Mais ces gens-là, ils ont des limites. Ces gens-là aussi, ils ont des valeurs. Ces gens-là ont des valeurs comme ces gens-là, ils peuvent être minimalistes. Ils peuvent être ce qu'on appelle adorer la frugalité, adorer des choses que quelqu'un qui n'a pas des moyens se dirait, bah, écoute, c'est peut-être un radin, c'est peut-être pas bien. Alors, ce qui est surprenant, par exemple, c'est que plus on a les moyens, et parfois on n'a pas trop envie de s'afficher avec des Maserati, avec des Ferrari. Il y a des gens qui roulent, par exemple, en Kangoo, en Twingo, mais ils sont à l'abri.
Se méfier des apparences.
Oui, il faut absolument se méfier des apparences. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler un petit peu son estime de soi. Vraiment, moi j'ai une approche intérieure des choses. Il faut travailler son estime de soi, il faut travailler ses relations avec les autres, il faut pouvoir se positionner dans la famille, il faut revoir un certain nombre de valeurs, se réapproprier des valeurs, parce qu'on nous transmet tellement de choses avant de se lancer dans la gestion de son argent. Parce que si on se dit, nous, on est des bling-bling, eh ben, si tu veux absolument rester dans le bling, eh ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas tellement peut-être dépenser plus que tu en gagnes et ça va te mettre en danger. Sauf si tu es t'es la fille de Crésus et que t'es une héritière d'une fortune colossale, mais même ça, à un moment donné, ça peut vite s'épuiser.
Ok, merci beaucoup de tes réponses, tu vois. En fait, en même temps, tu parles, je sais que moi, j'étais en train d'absorber, tu vois, j'absorbe tes paroles. Alors, est-ce qu'il y a une notion que t'aurais voulu qu'on balaye et qu'on n'a pas balayé?
La notion, j'ai envie de dire aux gens, venez quand vous êtes.
Oh, ça sonne très... On va pas citer le... tu l'as dit.
Non, en fait, il faut être décomplexé. Il faut venir en parler. Il faut se dire une chose aussi, c'est que tout n'est pas héréditaire. Bon, on peut peut-être hériter d'une maison, mais ça ne veut pas dire que forcément on peut hériter de la mauvaise gestion ou de sa communauté ou de sa famille. Enfin, il faut... Chaque individu a la capacité de s'extraire de ce qui était prédéterminé et s'émanciper. Et ça, c'est un message très important. En fait, il y a un gros message d'espoir. Je fais comme les Américains. Il y a un gros message d'espoir.
Je vais faire le même.
Il y a un gros message d'espoir pour chacun. On a tous le droit d'avoir fait des erreurs et on a tous le droit d'avoir une seconde ou même une troisième, une quatrième en fait, chance pour s'en sortir. Faut que les gens soient zen avec ça.
Ok, très beau message. Alors, je pense que j'aurais aimé que tu nous parles de tes podcasts parce que même là, par exemple, en chemin, j'étais en train d'écouter et tout. Et il y a plein d'histoires intéressantes donc, qui sont axées en fait par rapport aux finances. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est pas comment dire du déballage brut comme ça. En fait, il y a toute une narration, il y a des personnages en fait conçus. Et dont on suit les péripéties. Et du coup, voilà, peux-tu nous en dire plus là-dessus?
Oui, très bien. Alors, le podcast, je l'ai créé en 2019, fin d'année. Et jusqu'en 2022, janvier, le podcast était plus en mode formation, masterclass, tuto. Donc, voilà, je prenais, par exemple, des thématiques comme la retraite, épargner pour les enfants, pour les études, la pension de réversion pour les personnes qui ont perdu des conjoints ou pas. Donc, on était plus conseil. Et je me suis aperçu que les gens... Alors, pourquoi ils n'aimaient pas parler d'argent? Ils avaient l'impression qu'il y avait un flot, un lot de mauvaises nouvelles. On allait voir son banquier, on se faisait taper sur les doigts. Tout le monde disait, on n'est pas bien. Alors, j'ai totalement arrêté cette approche-là. Et je suis passé par une approche... plus narratif, c'est je vais raconter des histoires et je raconte des histoires authentiques basées sur le quotidien des familles. Et dans ces histoires-là, on retrouve quelqu'un qui vient juste de prendre sa retraite et je raconte sa retraite salée, comme je parle de quelqu'un qui a la passion des bolides. Et j'ai continué en fait à raconter ces petites histoires inspirantes où soi-même on va chercher en fait à trouver des réponses, à voir en fait ces failles et à visualiser les failles des autres. Et là, depuis un mois, je me suis lancé dans une fiction audio. Donc,
elle est pimentée et j'ai
cette fiction audio, le pitch, c'est simple. C'est l'histoire d'un étudiant de 18 ans qui s'appelle Nassor, qui vient en France, qui rejoint son cousin Ali, 10 ans de plus, très ambitieux, qui a envie de devenir président des Comores, et qui va l'épauler et qui vont former une colocation avec une fille, une bombe qui s'appelle Bettina. Donc 10 épisodes, on suit sur ces 10 épisodes les aventures de Nassor. Et dans ces aventures-là, on ne parle pas que d'argent, mais on parle des coulisses de la vie étudiante et comment, par exemple, on est amené à faire des choix. Par rapport à l'argent, en fait. C'est, en fait, on vit à travers 10 épisodes, donc les choix financiers et comment l'argent derrière nous drive, nous tire vers des choix de vie ou de société. Et j'aurai le plaisir de lancer la saison 2 et ça s'appelle Familia. Parce que Familia, c'est un petit peu du Corse, de l'italien, parce que tous les gens des îles et tous les gens du sud ou un peu de la Méditerranée, il y a cette notion-là de famille. Les choses se passent aussi en fait en famille. Donc, et là, J'ai hâte d'avoir vos retours et vos commentaires sur ça.
Moi, hâte d'écouter la suite et je vous encourage vraiment à écouter. Parce que l'histoire est pimentée, j'ai pas envie de spoiler, mais au moment là, jusqu'à où j'ai écouté, je m'attendais pas du tout à ces péripéties-là. Et je trouve que ça reflète pas mal la vie, mais vraiment dans les détails les plus réalistes en fait. C'est vraiment des trucs où on se dit, ah ouais, ça aurait pu arriver à quelqu'un, ou j'aurais pu entendre cette histoire en fait de la bouche de quelqu'un. Mais croyez-moi, c'est vraiment pimenté. Et sur ce, bon, je te remercie en fait d'avoir permis cet échange. Je te remercie de la qualité de tes paroles que j'ai bu, hein, comme j'ai dit là tout à l'heure.
Je t'ai bien entouré.
Ah, c'est trop plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Et pour vous, en fait, je vous dis à très bientôt, à très vite sur Trait d'Union. Et j'espère qu'on pourra se voir pour un autre podcast ou une autre vidéo.